c'est la gratuité des expositions permanentes de la CIGV, Monsieur Deseille.
En effet, l'objet du présent rapport est de proposer la gratuité d'accès des expositions permanentes au pôle culturel de la cité. Je rappelle que ces deux expositions, c'est En cuisine et Le petit théâtre du bien boire et du bien manger, en complément de la gratuité de la chapelle des climats et des terroirs qui avait déjà été mise en place, et de la mise en place aussi d'une carte de fidélité pour les personnes qui participent régulièrement à ces activités. Une nouvelle grille tarifaire pour les prestations proposées, associée à cette mise en gratuité, est aussi proposée. Donc ces évolutions s'inscrivent dans la stratégie mise en place pour continuer à augmenter le flux de visiteurs au sein de notre pôle culturel et le développement de prestations culturelles à forte valeur ajoutée en complément d'une gratuité d'accès à un socle culturel comme produit d'appel pour une première visite. Gratuité pour les expositions permanentes, c'est ce qui est mis dans tous les musées sur Dijon. C'est une décision d'équité de fonctionnement entre les différents établissements culturels de notre ville. Donc, les expositions permanentes de la CIGV étaient aujourd'hui les seuls espaces culturels municipaux à être payants. En parallèle, nous constatons via la billetterie les caméras de comptage de flux installées dans chacun des espaces d'exposition que sur environ 138 209 visiteurs en 2024, je rappelle qu'en 2023, il y en avait 120 000, donc belle progression. Les visiteurs gratuits, ceux qui présentent la Grande Chapelle, ceux qui fréquentent la Grande Chapelle, la Chapelle Sainte-Croix de Jérusalem, n'oublions pas, magnifique bijou patrimonial, représentent plus de 50% des visiteurs de ces espaces. D'autre part, les prestations avec une valeur ajoutée, telles que les visites guidées, gourmandes, les expositions, les conférences dégustations, les apéritifs concerts, les ateliers culinaires adultes ou enfants, fonctionnent particulièrement bien, avec un taux de remplissage de 85%. En 24, et sont proposés à un tarif largement inférieur à la valeur réelle et surtout à ce que les visiteurs accepteraient de payer pour elles. Alors ça, c'est bien sûr une enquête, c'est un constat qui est effectué suite à une enquête qualité auprès des participants de nos ateliers. De plus, toujours grâce à une enquête, un comparatif avec d'autres lieux similaires dans leur thématique permet de constater que le pôle culturel de la Cité internationale de la gastronomie du vin de Dijon pratique des prix relativement bas au regard de la qualité de ses propositions. Et on a comparé avec la Cité des vins de Bordeaux, la Cité du chocolat et des espaces d'ateliers culinaires locaux, et il y en a, et nationaux. Aussi, il vous est proposé de décider la gratuité des expos permanentes du pôle culturel de la Cité, tout en travaillant à la diminution progressive du déficit d'exploitation de celui-ci, et ceci à compter du 5 juillet 25. En réduisant ses coûts globaux, notamment en renforçant les mutualisations avec les partenaires privés, en réduisant les amplitudes d'ouverture des expositions en basse saison, en internalisant la majorité des prestations culturelles et en développant des partenariats avec des chefs et des acteurs de la gastronomie et du vin qui offrent leurs animations à la cité, mais aussi en développant des produits de visite à forte valeur ajoutée pour augmenter progressivement les marges et les recettes. L'évolution de la politique tarifaire du pôle culturel est une des composantes de cette stratégie. Permettre l'accès à la culture pour tous via la gratuité des espaces d'exposition et un paiement progressif des prestations à forte valeur ajoutée à un prix bien sûr, plus en phase avec leur coût réel. Il y a un tableau qui est détaillé avec des tarifs joints au présent rapport qui permet de présenter ces évolutions, de supprimer certaines prestations et d'ajuster les tarifs des billets couplés mis en place avec certains partenaires privés de la cité. Nouveaux tarifs cependant qui seront à prendre en compte à partir du 22 septembre 25, car il y a déjà des prestations qui ont été achetées par des clients pour cet été et donc au tarif actuel. Et donc ça jusqu'au 21 septembre. Donc nous débuterons le 22 septembre les nouveaux tarifs. Voilà, les prestations pour cet été ont déjà été faites. Je vous remercie.
Merci monsieur Deseille. Donc sur ce rapport, je vois monsieur Bichot et monsieur Bourguignat. Il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole? Et monsieur Cibert. Donc monsieur Bichot.
Oui, Madame le maire et chers collègues, nous sommes invités à délibérer pour la 16e fois sur les tarifs de la Cité internationale de la gastronomie et du vin en un peu plus de 3 ans. Cette instabilité devient chronique. Vous proposez maintenant, en désespoir de cause, si je puis me permettre, d'instaurer la gratuité pour les expositions permanentes. La prochaine fois, vous proposerez peut-être de payer les gens pour qu'ils viennent visiter. Il est à noter que tous les autres tarifs augmentent très fortement et que des tarifs préférentiels pour enfants disparaissent. Je vous rappelle que le pôle culturel devait être équilibré financièrement en exploitation. 3 ans plus tard, nous en sommes loin. Les dépenses en 2024 sont supérieures à 2 millions d'euros. Les recettes, mécénat compris, s'élèvent à 490 000 euros. Avec 150 000 euros de mécénat, je vous remercie sur ce point d'avoir répondu à ma demande d'information. Vous considérez que le contribuable dijonnais doit payer indéfiniment pour vos échecs. Je précise qu'il a été indiqué en commission que le montant des recettes, de la totalité des recettes des expositions permanentes était de 140 000 euros par an. Alors pour 120 000 visiteurs, ça veut dire que ça fait quand même pas cher de billets par visiteur. Il y a quelque chose qui est quand même assez surprenant. Nous considérons qu'il est temps d'arrêter les frais. Par ailleurs, nous avons établi de manière incontestable que les espaces communs et les voies ont été financés 2 fois. La première par une réduction du prix de vente par la ville, la deuxième par un remboursement du coût des travaux de la part de la métropole au moment du transfert de propriété. Ce constat a d'ailleurs été confirmé par le magistrat de permanence du parquet national financier, même s'il n'a pas retenu la qualification de détournement de fonds publics que je proposais. Ce préjudice porte sur au moins 5,5 millions d'euros. Que comptez-vous faire pour rendre cet argent aux Dijonnais ? Merci beaucoup.
S'il vous plaît, vu que je viens d'être indirectement mis en cause par M. Bichot, qui saisit régulièrement le procureur financier et qui utilise son rôle d'ailleurs au sein de la Cour des comptes, moi, je m'interroge tous les jours s'il n'y a pas, quand M. Bichot intervient comme ça sur des rapports qui sont suivis en tant que par la Chambre générale des comptes ici et que lui intervient par-dessus ça en tant que conseiller maître à la Cour des comptes, il y a un conflit d'intérêts manifeste. Donc, je soulève ce conflit d'intérêts et je vous rappelle que j'ai porté plainte, je ne suis pas le seul d'ailleurs, Madame la maire, avec vous, pour dénonciation calomnieuse. Monsieur Bichot s'est répondu à peu près partout sur les télévisions régionales, m'accusant d'avoir détourné des fonds publics, détournement de fonds publics, envisageant des peines de prison, parce que non seulement monsieur Bichot donne les leçons, mais il donne la peine aussi, le quantum. Il sait tout, et rien d'autre, aurait dit Clémenceau. Mais c'est vrai, finalement, tout ça est assez insignifiant. Mais il faut arrêter ces querelles, monsieur Bichot. Ça fait 10 fois, 12 fois, vous disiez que les prix ont augmenté, mais vous, ça fait 10 fois, 12 fois que vous allez en justice pour perdre à chaque fois. Vous avez encore perdu malgré votre influence, que j'ai dénoncée d'ailleurs auprès de la Cour des comptes, je voulais vous le dire, parce que ça commence à bien faire de vous voir en tant que procureur financier vous-même. D'ailleurs, la juridiction que vous avez saisie du procureur financier n'a pas donné suite, n'a même pas compté donner suite à cela. Vous interprétez en plus ensuite son refus. Tout ça se réglera par une dénonciation calomnieuse de notre part vis-à-vis de vous. Et cette fois-ci, on verra ce qu'il en ressortira. Ce n'est pas possible de vous laisser tous les jours insulter comme ça les individus. C'est votre sens de faire de la politique, on le sait. Mais abuser de votre fonction. Chaque fois que la Chambre régionale des comptes, ici, intervient sur la ville, vous intervenez au même moment, au même instant, en tant que conseiller maître à la Cour des comptes. Et je pense que vous essayez d'influencer comme ça toujours les rapports de la Chambre régionale des comptes. Et donc, je le dis ici, c'est inacceptable. Je n'irai pas plus loin sur mon intervention, mais je voulais faire cette mise au point un peu solennelle, parce que ça suffit vraiment. Même vous avez commencé à 10, vous êtes à 2, ça prouve votre capacité de rassemblement. Finalement, vous êtes un grand diviseur, c'est tout ce que vous êtes. Vous perdez vos colistiers les uns après les autres, vous faites exploser les droites partout où vous êtes passé. Finalement, le maire de Beaune, malgré ses échecs sur la Cité des Vins, il avait raison quand il m'a dit « mon vieux, t'as pas de chance de recevoir Bichot hein. ». Voilà.
Merci, Monsieur le Président. Il y avait Monsieur Cibert qui avait demandé la parole et après Monsieur Bourguigna. Je ne sais plus dans quel sens, mais allez-y, Monsieur Cibert.
Oui, Madame la maire, chers collègues, C'est vrai, pour rejoindre l'intervenant précédent, on a beaucoup touché aux tarifs de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, peut-être trop, sans jamais se poser la question, ou en tout cas se remettre en question, sur le sens qu'on donnait à la Cité de la gastronomie, le site, mais évidemment le pôle culturel que la ville a acheté sur des fonds publics. Donc c'est quand même un investissement de plus de 15 millions d'euros et un coût de fonctionnement que supporte la ville environ de 2 millions d'euros par an depuis les 3 ans d'ouverture. Et en comptant les recettes de billetterie, justement, on est un peu plus de 20 millions d'euros de charges nettes sur le contribuable. Donc pourquoi aujourd'hui, j'ai envie de dire, refaire peser un fardeau supplémentaire sur le dos des contribuables dijonnais sans se poser la question de qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le fond à cette Cité de la gastronomie? Au contraire, vous proposez dans ce rapport de dégrader le service. De dégrader le service? Mais si! Alors, vous allez réduire les amplitudes horaires en basse saison au lieu d'essayer de toucher les Dijonais, parce que enfin, concrètement, la Cité de la gastronomie a manqué sa cible dijonnaise. Mais enfin, c'est un débat sain, hein, franchement. J'attaque encore moins l'adjoint au maire qui porte à bout de bras cette Cité de la gastronomie, vraiment. Donc je salue son travail pour éviter que cette cité ne connaisse un échec cuisant jusqu'à la fermeture, parce que c'est l'intérêt de personne. En tout cas, c'est pas mon intérêt, vraiment. J'ai beau être dans l'opposition, c'est pas notre intérêt de voir un site, une rénovation assez réussie, plus ou moins réussie, mais en tout cas, c'est pas notre intérêt de voir une friche s'installer. Donc, entendez nos propositions. Et là, cette décision de gratuité des expos permanentes, elle ne s'appuie en plus sur aucune étude d'impact. Monsieur l'adjoint au maire cite la Cité des Vins de Bordeaux. La Cité des Vins de Bordeaux, elle accueille 400 000 touristes en moyenne avec un billet d'entrée plein tarif à 22 euros et son coût de fonctionnement de 10 à 11 millions d'euros par an, il est entièrement supporté par des frais privés. Donc justement, intéressons-nous à cet exemple bordelais et puis redéfinissons ce projet de Cité internationale de la gastronomie avec nos acteurs locaux, nos viticulteurs de l'appellation Bourgogne-Dijon, avec nos restaurateurs, nos professionnels de l'agroalimentaire, nos hôteliers. Et voilà, et trouvons une voie qui ne sera pas l'échec dans lequel vous nous conduisez avec des décisions comme celle-ci. Je vous remercie.
Monsieur Bourguidia, à la parole. Et on vous répondra, enfin, on fera une réponse groupée.
Bien, Madame la maire, Mesdames, Messieurs, il nous est proposé d'instaurer la gratuité des expositions permanentes à la Cité de la gastronomie et du vin. Pour notre part, nous ne sommes pas favorables par principe à la gratuité systématique des musées, en particulier pour les touristes internationaux. Dès lors, en cohérence, nous ne le sommes pas plus pour les expositions de la Cité de la gastronomie et du vin. De plus, nous ne pensons pas que la gratuité apportera un surcroît de fréquentation. Franchement, qui connaît un Dijonnais qui a dit « maintenant que c'est gratuit, je vais aller à la Cité » Personne, ça n'existe pas, ça. C'est un raisonnement théorique qui plus qu'ancré sur la réalité. D'autant qu'effectivement, aucune étude d'impact n'a été menée pour appuyer cette décision. Pour mémoire, le pôle culturel a accueilli 120 000 visiteurs en 2024, en incluant d'ailleurs l'espace 1204, et c'est malheureusement loin des espérances initiales qui étaient de 250 000. Ce n'est pas faute de communication. Et je signale ici la mission d'accompagnement à la communication de la cité qui coûte 116 380 euros hors taxes et qui figure dans le rapport de délégation du maire, qui est en fait le dernier rapport que nous examinerons lors de ce conseil municipal. Au-delà de l'impact faible de cette mesure sur la fréquentation, la gratuité, ça a été dit, mais c'est vrai, aura des conséquences financières dommageables parce que, évidemment, elle viendra mécaniquement approfondir le déficit de fonctionnement. Si on est loin des 3 millions de recettes annuelles initialement espérées, la billetterie générait tout de même des recettes. Alors, c'est vrai que ce serait intéressant de nous renseigner sur le chiffre, puisqu'on a lu quelque part 600 000 euros, on nous parle là de 140 000 euros. Ce serait intéressant d'avoir la somme exacte. Dans tous les cas, cette somme, il faudra désormais en large partie la compenser sur le budget de la ville. Donc, vous l'avez compris, pour toutes ces raisons, nous ne croyons pas à la pertinence de cette mesure de gratuité. Mais au-delà de ça, le débat qu'il faut que nous ayons avec lucidité, c'est celui de l'avenir de la cité de la gastronomie. Dans sa formule actuelle, c'est faire injure à personne de dire qu'elle n'a pas pleinement trouvé son public. Les Dijonnais ne sont pas encore complètement appropriés le lieu. Les touristes internationaux ne sont pas assez nombreux. On sait que dans la région, il y a beaucoup de concurrence et que ça peut l'expliquer. Et au-delà de ça, le concept demeure un peu patchwork, que manque encore de visibilité. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter. Par exemple, la restauration patrimoniale du site, elle est unanimement saluée. Moi, je crois toujours à cette idée d'un food court à la dijonnaise, qui soit authentique, convivial, populaire. Bon. Donc voilà, je crois que si nous avons le courage de poser lucidement le diagnostic, de mettre les choses à plat, peut-être effectivement imaginer de nouvelles activités sur le site, et je ne vous cache pas que j'aurai des idées à proposer, moi je suis convaincu que ce site a un avenir et qu'il pourra être un élément moteur de l'attractivité de notre ville. Je vous remercie de votre attention.
Monsieur Desailles va vous apporter quelques éléments de réponse.
Ah oui, monsieur Bourguignard, juste pour répondre, quand vous dites qu'il n'y a aucune étude de fait sur l'impact de la gratuité, sachez que quand on a mis la chapelle des climats et des terroirs gratuite, on a fait 30% d'augmentation de flux. Donc c'est quand même un impact, 30%. Sinon, je voudrais revenir sur quelques éléments objectifs. Donc revenir sur l'ambition initiale du projet. C'est de requalifier un espace urbain. Vous l'avez dit, ça aurait pu devenir une friche, ce que l'on voit d'ailleurs dans beaucoup de villes. L'hôpital de Clermont-Ferrand est resté pendant 10 ans squatté. L'ancien hôpital, c'était une catastrophe en plein centre-ville. Nous avons cette chance-là. Ça a été une fois que le dernier patient est parti. Je vous rappelle que les travaux ont commencé le lendemain. De ce point de vue, il est incontestable et reconnu à la fois par les riverains, les visiteurs, que ce projet, c'est une réussite architecturale et patrimoniale. L'ensemble du quartier, avec aujourd'hui le port du canal, se développe et offre une vraie qualité de vie qui est assez exemplaire aux Dijonnaises et aux Dijonnais qui y vivent et aux touristes qui y passent. Sans oublier la mise en valeur donc des deux chapelles, la chapelle des Climats des Terroirs, qui était avant visitable très peu, maintenant on la voit, on peut y aller comme on veut, la chapelle Sainte-Croix de Jérusalem, qui était un joyau, qui a maintenant été rénové et qui est merveilleuse. Sans oublier le SIAP, bien sûr, je pense à Christine, qui est un outil de promotion d'un patrimoine vraiment exceptionnel. Certains ont critiqué qu'il n'y avait plus d'apothicairie. Allez la voir, c'est magnifique aussi. Et les gens, quand ils vont la voir, ils trouvent ça superbe. Deuxième ambition, c'était développer un nouvel pôle d'attractivité à Dijon, en s'appuyant sur l'opportunité de ce label UNESCO, qui a été partagé avec le repas gastronomique et avec 4 villes. Lyon, c'est compliqué. Tours, c'est une cité hors les murs. Paris-Rungis, c'est toujours pas sorti. Et Dijon, on se bat, on est quand même la seule en France à accueillir une cité qui incarne et valorise ce patrimoine. Donc c'est important pour nous. C'est une réussite, certes, aussi incontestable et aujourd'hui exemplaire pour de nombreux territoires en France et à l'étranger qui se déplacent pour comprendre cette cité. Oui, voir la dupliquer chez eux. Nous avons une mise en itinérance de l'exposition à table en 2025 sur 4 villes au Japon, l'assistance au projet de la cité de la bière à Anvers, l'exposition à table en Allemagne bientôt. Vendredi, j'ai reçu une délégation coréenne qui est ressortie enchantée. C'est ça qui fait mal au cœur, c'est que les étrangers, ils adorent. Ils disent, voilà, c'est super d'avoir un objet d'attractivité pareil. Et le Maroc ce week-end, mais après d'autres pays tout au long de l'année. Alors, quelques chiffres. Je parle du pôle culturel. 120 000 visiteurs en 23 dans les expositions du pôle culturel, 138 000 en 24. Même tendance de janvier à fin 25, ça augmente par rapport à 24. Le pôle culturel a une fréquentation en hausse liée à la qualité et au renouvellement régulier des expositions proposées. Les coproductions engagées, par exemple, Croquer la BD, c'est quelque chose qui a été fait avec la BD d'Angoulême, la cité de la BD d'Angoulême. Comme quoi, il y a un problème avec la cité que certains veulent mettre en place. Regardez cette exposition BD. 120 000 personnes à Angoulême l'année dernière, zéro critique. Nous, on l'a ouvert, 2 heures après, ça commençait déjà à aller sur les réseaux sociaux à dire que c'était n'importe quoi. 2 heures après. Eux, 1 an, aucune critique. Nous, 2 heures, ça commençait déjà à critiquer. Après, on veut dire qu'on pense que du bien de la cité, on veut l'aider. Je ne suis pas d'accord pour tout le monde. C'est une stratégie, en tout cas, qui était mise en place depuis seulement 3 ans, avec cette coproduction. On espère que ça se fera avec d'autres villes sur d'autres expositions temporaires. Nous avons obtenu l'obtention du label Tourisme Handicap, décerné aux espaces culturels de la cité par Atout France, l'accueil de 10 000 scolaires, de la maternelle au lycée. Depuis l'ouverture, en moyenne, à part quelques journalistes locaux, mais et encore certains, 8 journalistes de la presse française et étrangère par mois, généralistes ou spécialisés, qui viennent visiter la cité pour des articles dossiers dédiés pour mémoire. Le Time, il a positionné à Dijon comme l'une des meilleures destinations à visiter grâce à la cité, a qualifié Dijon de Havre des gourmets. Une programmation d'événements tous les week-ends, pendant les vacances scolaires, depuis l'ouverture. Vous parlez de diminuer, tout à l'heure, vous allez diminuer les prestations. Il n'a jamais été question de ça. On va diminuer les horaires l'hiver quand il n'y a pas grand monde. Regardez ce qui se passe à Beaune, la cité des vins de Beaune. On les avait dit depuis le début qu'il ne fallait pas ouvrir lundi, mardi, mercredi. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils sont obligés ils vont être obligés de le faire. Nous, on ne dit pas ça. On dit qu'on va diminuer les horaires l'hiver quand il n'y a pas grand monde, les lundis, mardis, mercredis. Mais on va augmenter la qualité des expositions temporaires, surtout des prestations qui sont liées. Les gens, ils veulent de la gourmandise. Ils veulent avoir du sensoriel, du gustatif. Donc, on va augmenter ces prestations-là lors des visites. C'est ça que nous allons faire. Nous n'allons jamais diminuer la prestation. Au niveau des ateliers culinaires, artistiques, pour adultes, enfants, chaque semaine, 10 à 15 visites guidées pour des individuels, 20 ateliers, conférences, dégustation, 4 à 6 événements mobilisant tous les acteurs de la cité par mois. Un lien ancré sur le territoire également au sein d'un réseau d'acteurs locaux, les entreprises agroalimentaires, les producteurs, les acteurs associatifs, les acteurs éducatifs, universitaires, recherche, Vitagora, laboratoire des sciences du goût, l'INRA. On travaille avec eux, le village Baïséa qui est juste à côté. Un fonds pour le mécénat de la cité créé en 23, qui dès sa première année a élevé plus d'1 million d'euros de mécénat en numéraire. Nous sommes aujourd'hui à plus de 2 millions d'euros, auxquels s'ajoutent des dons en produits et en prestations de haut niveau par des entreprises locales. Le pôle culturel, on peut s'engager que là-dessus, fonctionne bien. On va encore améliorer la fréquentation. Si la cité fonctionne si mal que certains veulent le faire croire, ses acteurs et les partenaires ne s'engageraient pas à mener des actions avec elle, notamment le pôle culturel. Sinon, un petit mot perso, nous sommes des élus destinés à porter Dijon, à booster Dijon, notre ville. Nous ne sommes pas élus pour la dénigrer. Alors vous qui avez soi-disant tous des ambitions politiques pour votre ville, vos déclarations parfois calomnieuses, et je dis bien calomnieuses, ont un impact sur notre ville. Quand vous attaquez la cité de la gastronomie, vous décrédibilisez notre ville, notre territoire, nos acteurs économiques. Votre posture, ça remet en cause l'attractivité de Dijon. Ça sème le doute auprès de futurs investisseurs. C'est un impact négatif sur les touristes, sur les hôtels. Arrêtez de faire cela et les restaurants. Comment pouvez-vous maltraiter ainsi votre ville dans un environnement économique aussi ultra concurrentiel ? Vous savez, il y a plein de villes qui aimeraient avoir une cité comme la nôtre pour augmenter leur attractivité. Il nous faut mettre en avant notre ville, ses atouts, ses musées, ses équipements culturels. Il nous faut accroître notre pouvoir de... Attendez, j'ai perdu mon fil, là. Ça va revenir. Non, mais c'est important, je voulais vraiment revenir. Notre pouvoir d'attraction, c'est vraiment important à l'échelle nationale et internationale, mais également de contribuer à un environnement propice à l'innovation. J'en veux pour exemple cet ingénieur diplômé d'AgroParisTech, rencontré la semaine dernière par ma collègue ici présente, Marie-Hélène Jouaille-Andrian, en charge des start-up et l'innovation à la métropole. C'est un ingénieur et fondatrice d'une start-up en nutrition, et elle identifie explicitement la cité comme un des principaux facteurs favorables à son choix d'installation à Dijon. Vous voyez comme quoi ça sert aussi de porter. Tout à l'heure, je vous parlais de l'auditorium. L'auditorium, est-ce que vous nous entendez dire que ça coûte hyper cher ? Je le dis là parce que j'en ai assez d'entendre des critiques sans arrêt. Ça a coûté une fortune au Dijonais. Là, tout à l'heure, M. Sibert, vous dites que ça a coûté 15,5 millions d'euros au Dijonais. Mais si vous étiez venu me voir ou si vous étiez venu en commission finance, non, ce n'est pas 15 millions d'euros au Dijonais. C'est 7 millions payés par le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. C'est 4 millions du CRSD, contrat de revitalisation du site de la Défense, payé par l'État. Alors c'est sûr que le Dijonais, il paye aussi des impôts. Ça fait 11 millions, on a 4,5 millions pour la ville de Dijon. C'est pas 15,5 millions. Donc à un moment, vous savez, moi je suis pas né à Dijon, mais j'y vis, je travaille depuis 35 ans, et moi je me bats pour essayer de promouvoir cette ville. Et là, c'est, j'ai vais, comment ? contrairement à certains. La CIGV devrait nous rassembler, ne pas nous diviser. Ça devrait être une fierté pour nous tous. En tout cas, il faut sortir de la calomnie. Ne soyons pas adeptes à la politique de Trump, qui suffit de sortir les pires conneries, il en restera toujours. Et c'est vrai que j'entends des fois, moi, « Ah, vous avez détourné 5,5 millions. » Non, mais attendez, il faut arrêter. C'est n'importe quoi. Il faut arrêter cela. Moi, je préfère... Monsieur Cibert, vous avez sorti le 27 juin 22. La cité est un nouvel outil d'attractivité pour notre ville et notre métropole, allant même jusqu'à la qualifier de nouveau temple, et j'adore, de la gastronomie et de l'art de vivre à la bourguignonne. Vous lanciez même longue vie à la cité et vous vous disiez fier de votre ville. Quel changement ? Étiez-vous sincère à l'époque ? Est-ce du pur opportunisme ? Les Dijonais méritent de la cohérence et de la constance. Et concernant la gratuité des expositions, on ne se fait que s'aligner sur les expos hein, de toute la ville. Pourquoi il n'y aurait que la cité qui serait payante ? Pourquoi il n'y a que les expositions permanentes de la cité ? Moi, dès le début, je demandais cela. Tout doucement, ça s'est fait, ça fait son chemin. Mme Kunders a dit oui, la maire a dit oui, tant mieux. Il y a des expositions permanentes gratuites partout, des expositions temporaires payantes. Alors toujours, M. Cibert, en 22, vous dites les tarifs, vous parliez à l'époque de tarifs pas forcément accessibles pour tous les publics, et vous appeliez une appropriation populaire. Ben, c'est le cas maintenant. On les rend gratuits pour les expositions permanentes, tout le monde pourra venir. Je ne vous comprends pas. Concernant le coût de cet équipement, j'en ai parlé. Et franchement, il faut changer d'attitude par rapport à ça. Nous, on n'est pas rebouté sur l'auditorium qui coûte très cher à la ville, mais parce que c'est un superbe outil d'attractivité qui fait venir des gens. Il y a des gens de partout en Europe qui viennent assister à des concerts ici. Donc portez cette cité, aimez votre ville, aimez la cité, et on s'en portera encore mieux. Alors si vous avez des idées, venez me voir. Je ne vous vois jamais venir me le dire. Vous venez en conseil municipal critiquer, mais en tout cas, jamais vous venez me le dire. Donc j'attends, je suis dispo. Moi, j'aime ma ville. Portons cette cité, portons Dijon, et je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Deseil, pour votre réponse précise et puis de mettre l'opposition face à leurs contradictions. De toute façon, ils étaient contre la CIGV dès le début, avant même qu'elle soit construite, avec des recours, des multi-recours. Ils ont toujours été déboutés. Comme vous l'avez dit, l'ensemble des musées, des expos permanentes sont gratuites à Dijon. Donc c'était aussi dans un souci de cohérence et d'être juste que j'ai souhaité aussi rendre ces expos gratuites. Et puis... vous faites allusion à Bordeaux, bah, vous oubliez aussi que Bordeaux, c'est un investissement de 80 millions d'euros et 80% d'argent public. Donc il faut donner tous les chiffres, il ne faut pas seulement donner une partie de... En gros, bon, il y a toujours, voilà, il donne des leçons, mais il n'apporte rien. Et attention aussi aux dénonciations calomnieuses, Monsieur Bichot. Vous êtes parfois en conflit déontologique. Nous avons porté plainte contre vous et... faites attention sur ce que vous racontez, parce que vous dénigrez Dijon, vous dénigrez ses habitants, mais je pense que vous êtes aussi, de par vos fonctions, en conflit déontologique. Donc c'est pour ça qu'on a porté plainte contre vous à ce sujet. Donc je vous propose maintenant de passer au vote. Donc sur l'évolution des contenus et de tarifs des prestations du pôle culturel associées à cette mise en gratuité, et donc la gratuité des expositions permanentes du pôle culturel de la CIGV, qui est contre ? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui s'abstient ? Bien, je vous remercie et je vous propose de passer au rapport suivant. Donc c'est le rapport...